Chapitre 44. Après avoir récupéré son arc dans la faille où s'était cachée Samantha, Richard s'écarta de la formation rocheuse dont la saillie et la configuration en creux l'avaient protégé du désastre, tandis qu'il faisait un bouclier de son corps à sa compagne. Du bout d'un pied, il écarta les restes ensanglantés d'un torse, ou plutôt d'une moitié de torse. Sur cette horrible relique, il remarqua des lambeaux de tissu. Comme les autres, ce sauvage avait été vêtu de haillons. « Ces demi-humains sont différents, » souffla Richard juste pour lui-même.
« Comment ça, différent ?»
demanda Samantha qui avait l'ouïe fine.
« De quoi parlez-vous? Qu'ont-ils de différent ?»
Plongé dans ses pensées, Richard n'avait pas eu conscience de parler à voix haute. « Eh bien, regarde autour de toi, » dit-il en faisant un grand geste circulaire. Puis il se mit en chemin et la jeune magicienne lui emboîta le pas. S'arrêtant soudain, il désigna un corps sans tête. « Tu vois, ils sont tous habillés de la même manière, comme celui-ci. À peine mieux que des haillons. À croire qu'ils ont déterré des morts pour voler leurs vêtements.
Quelle idée répugnante !»
Les deux types qui m'ont attaqué près du chariot étaient plus grands que la plupart de ces demi-humains.
« Vous parlez de ceux qui vous ont mordu ?»«
Oui. Ils étaient forts, bien nourris et vêtus de tenues simples, mais dans un état convenable. » C'étaient des dévoreurs d'âmes, certes, mais pas très différents d'aspect de la plupart des hommes de ton village. Ces demi-humains sont plus petits, plus maigres, et beaucoup ont l'air malades. Richard désigna un bras coupé dont la peau était constellée d'ulcères. Tu vois ce que je veux dire? Ces créatures semblent affamées et pas seulement d'âmes, et on dirait qu'elles vivaient comme des animaux. En plus des différences physiques et de la maladie, mes deux agresseurs parlaient. Et ils paraissaient relativement intelligents. Ils se sont demandé ce qui nous arrivait et ils ont tenté de mettre au point un plan.
Un plan? Je ne comprends pas.
Eh bien, ils voulaient me dévorer tout de suite, mais ils se demandaient que faire de Callan. La garder pour plus tard ou peut-être la vendre. Richard désigna plusieurs cadavres qui gisaient sous des éclats de bois. Cela les a entendus dire ne serait-ce qu'un mot. Nous crier de nous arrêter, par exemple?
« Non, il rugissait, c'est tout, »
fit Samantha, encore tremblante à ce souvenir.
« Exactement.
Donc, si mes deux agresseurs et ces monstres-là sont bien tous des demi-humains, ils n'en restent pas moins différents les uns des autres. » Samantha écarta une mèche de cheveux de ses yeux et repartit dans le sillage de Richard, en regardant soigneusement où elle mettait les pieds.
« C'est bizarre qu'ils soient si différents, »
dit-elle après un moment de réflexion. Et il y a aussi les cadavres que j'ai vus, dit Richard. Avisant un tronc qui leur barrait le chemin, il l'enfourcha et franchit sans peine l'obstacle. Trop petite pour l'imiter, Samantha contourna l'arbre mort.
Quel cadavre ? Demanda-t-elle.
Les soldats d'élite, peut-être avec l'aide de Nietzsche et de Zed, ont tué beaucoup d'agresseurs avant de succomber. En me réveillant dans l'obscurité, je n'ai rien vu, mais après avoir été secouru par Esther et les autres, j'ai découvert des cadavres partout aux alentours, des demi-humains tombés durant une terrible bataille. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil, mais je peux te dire qu'ils ne ressemblaient pas non plus à ceux que nous avons sous les yeux, ni à mes agresseurs, qui parlaient entre eux de Shuntuk.
Et à quoi ils ressemblaient, ces Shuntuk?
Ils étaient à moitié nus. Certains portaient un pantalon et d'autres un simple pagne. Autour des yeux, ils avaient de la suie ou de la boue. Le reste de leur visage et de leur peau était couvert d'une substance blanche, à base de cendre, je crois. Certains arboraient une sorte de toupet au sommet du crâne. Des liens de perles, de dents et d'os enserraient la base de ces toupets pour qu'ils tiennent bien droit. Samantha s'enroula frileusement les bras autour du torse. Les guerriers aiment avoir l'air intimidant et ces Shuntuk ne faisaient pas exception à la règle.
« Donc, si je comprends bien, vous dites que les deux brutes, les Shuntuk et nos agresseurs, n'ont aucun point commun à part être des demi-humains, c'est bien ça ?»«
Oui, tous différents à part sur un point. » Mais dans son récit, Nadja ne mentionne jamais l'existence de sortes différentes de demi-humains. Tout ce qu'elle nous dit, c'est que les inventeurs de Sulakan ont créé des armes vivantes et que les sorciers du Nouveau Monde, plus tard, sont parvenus à emprisonner ces monstres et les cadavres ranimés derrière une haute muraille.
« Où voulez-vous en venir, Seigneur ?
demanda Samantha en enjambant une souche. Eh bien, je pense que quelque chose est arrivé depuis que les demi-humains sont emprisonnés. C'est pour ça qu'ils ont évolué. Est-ce si important que ça? Qu'est-ce que ça change? Richard regarda sa compagne et fronça les sourcils. D'après Nadja, certains demi-humains contrôlent une forme de sorcellerie. Samantha ne cacha pas sa soudaine inquiétude.
Peut-être, mais ceux-là ne nous en ont pas fourni la preuve.
C'est bien ce qui m'inquiète. Ce sont peut-être simplement des charognards, des rejetés. D'autres demi-humains peuvent avoir évolué depuis l'époque de Nadja et se révéler bien plus dangereux. Des chasseurs plus doués que ceux de jadis et que nos ennemis d'aujourd'hui. Samantha ne répondit pas, mais elle parut encore plus inquiète. Après une assez longue marche, le sourcier et la magicienne atteignirent les limites de la zone dévastée. Ici, plusieurs arbres géants, touchés par la fureur de Samantha, avaient été déracinés, mais reposaient sur des voisins toujours intacts. D'après ce que Richard savait des arbres abattus par le vent, ceux qui n'avaient pas souffert finiraient par céder sous le poids des autres. En d'autres termes, la destruction n'était pas encore terminée. Elle cesserait cependant un jour, quand de petits arbres s'écrouleraient sur des grands, et la nature reprendrait ses droits. Mais il faudrait longtemps pour que tout redevienne normal.
« Attention !»
lança Richard en passant à côté d'un chêne vénérable sur lequel s'appuyaient de plus petits arbres déracinés. « Si les branches du chêne cassent, les autres arbres peuvent tomber à tout moment. Marche sur mes talons, jusqu'à ce que nous soyons revenus dans une zone intacte de la forêt. » Richard slaloma entre des troncs endommagés, mais toujours debout ou appuyé sur d'autres, en essayant de passer loin de ceux qui semblaient les plus susceptibles de s'écrouler. Il n'y parvint pas totalement car il y avait des centaines d'arbres dans cette condition précaire. Tous avaient été touchés par des éclats de bois, certains pas plus gros qu'un pouce et d'autres plus massifs que sa jambe, et la plupart, leurs troncs trop abîmés, ne survivraient pas bien longtemps.
« Si j'ai bien compris, » dit Samantha, « ce sont les Shuntuk qui détiennent vos amis et ma mère. Comment allons-nous les trouver ?»
D'après mes deux agresseurs, les Shuntuk vivent derrière la haute muraille dans un lointain pays. Richard baissa la tête pour passer sous un arbre à moitié abattu dont les racines, en s'arrachant, avaient littéralement éventré le sol. Mes agresseurs étaient surpris que les Shuntuk soient venus de si loin. Si j'ai bien compris, leur pays est très grand.
« Génial !»
marmonna Samantha.
« Pour résumer, les demi-humains qui y retiennent vos amis et ma mère vivent très loin à l'intérieur du troisième royaume. »«
C'est ce qu'il semble, oui, » dit Richard. Entrant dans une partie parfaitement intacte de la forêt, il fit un grand geste pour désigner la destruction qu'il laissait dans son dos. « Les demi-humains que tu viens de vaincre ne paraissent pas du genre à faire des prisonniers. À mon avis, ils dévorent leur proie sur place. Les Shuntuk sont différents, avec des motivations plus complexes.
Bref, nous devons les chercher et quand nous les aurons trouvés, ce sera encore pire que ce que nous venons de vivre.
J'en ai peur. » Richard s'arrêta et se tourna vers sa compagne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la sorcellerie dont parle Nadja. Au fil des siècles, ce pouvoir a pu devenir plus fort.
Et pourquoi ça?
Parce que la nature est friande d'équilibre.
Que voulez-vous dire?
Comme toute chose en ce monde, les prédateurs et les proies cherchent l'équilibre. Quand il y a beaucoup de lapins, par exemple, il naît plus de loups puisque la nourriture abonde. Plus nombreux, ces prédateurs éviteront une surpopulation de lapins. En revanche, quand il y a trop de loups, ils détruisent leurs réserves de nourriture et très peu d'entre eux survivent à la privation. Moins menacés, les lapins recommencent à se multiplier et le cycle repart pour un tour.
Oui, mais ce ne sont que des animaux.
Tout fonctionne ainsi dans la nature. Même à l'intérieur d'une population, comme l'équilibre entre les mâles et les femelles chez les loups, pour rester sur mon exemple. La magie additive compense la magie soustractive, et le libre arbitre est l'élément qui contrebalance les prophéties.
Eh bien, tout ça est logique. Mais quel rapport entre l'équilibre et cette sorcellerie?
Cette magie noire pourrait être la contrepartie du don.
C'est une idée terrifiante.
Je ne dirais pas le contraire.
Pourquoi la magie aurait-elle besoin d'équilibre?
Si le don a trop prospéré, la nature, à un moment, a rétabli l'équilibre en laissant la sorcellerie se développer aussi. Samantha leva les yeux vers Richard.
Dans ce cas, sommes-nous les chasseurs ou les proies? Qui traque qui?
Excellente question, fit Richard en continuant de s'enfoncer dans la forêt de nouveau dense et obscure. La piste principale doit être par ici. Pas très loin, je pense. Dès que nous l'aurons rejointe, nous pourrons avancer plus vite.